On continue notre petite étude dans Éphésiens. Ce soir, on est encore dans le chapitre 2. On va voir les versets de 8 à 10. C'est un sujet qu'on parle assez régulièrement dans les prédications parce que c'est le cœur du message du salut. On est rendu là, puis on n'a pas le choix. Il faut passer à travers, même si c'est des sujets qu'on a déjà entendus. Mais c'est toujours bénissant de repasser ces choses-là parce qu'on fait le point avec le Seigneur. Où est-ce qu'on est, notre position devant Dieu. Là, l'apôtre Paul, quand il est rendu au verset 8, il venait juste de nous expliquer dans les versets antérieurs que notre état de perdition qu'on avait devant Dieu avant de connaître Dieu. Puis ensuite, on a vu comment est-ce que Dieu il a manifesté son acte d'amour envers nous par Jésus. Parce que Dieu a prouvé son amour pour nous dans ce qu'on était des pécheurs, Christ est mort pour nous. Faut pas oublier que par nature, on était des enfants de colère, on était perdus à cause de nos péchés, on était morts devant Dieu, c'était impossible d'obtenir quoi que ce soit de Dieu. Mais Dieu, c'est un Dieu d'amour, puis il a préparé un chemin, il a préparé une manière qu'on puisse être sauvé. C'est quelque chose d'extraordinaire, il y avait juste Dieu qui pouvait faire quelque chose pour que sa justice soit comme... accompli à travers de ce plan-là, que les gens puissent devenir justes à cause du plan que Dieu a fait, le plan à travers son fils Jésus. Là, on va voir au verset 8, que l'apôtre Paul nous explique que le salut vient pas de nous, mais que c'est un œuvre préparée par Dieu. On n'a rien à voir comme effort ou chose qu'on aurait pu faire pour gagner le ciel. Pour gagner notre salut, comme que je viens de dire, qu'on avait vu juste quelques versets avant, comment est-ce qu'on était perdu devant Dieu, on était pécheurs, on est né séparé d'avec Dieu, puis on a fait plein de péchés toute notre vie, on était sous la colère de Dieu. Mais dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, il nous dit, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. » Une grâce, là, c'est un cadeau. Ça veut dire, c'est un cadeau que vous êtes sauvés. C'est par le moyen de la foi. C'est ça son plan qu'il a préparé. Ça vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Il y a personne sur la terre qui peut se péter les bretelles et dire que moi, j'ai gagné mon ciel. On pouvait pas. On était perdus. On était sans... Aucune promesse possible pour nous, à part que de voir le plan que Dieu a préparé. C'est une grâce. Dieu a montré son amour là-dedans en préparant quelque chose de spécial qui nous permet d'être sauvés. Puis ça, c'est par la foi qu'on saisit ça. C'est pas par nos mérites. C'est un cadeau non mérité. Ça vient pas de nous. C'est un don de Dieu. Le salut vient pas par les efforts humains. Parce que, comme que Bernard a dit tantôt, il est impossible qu'un humain puisse se sauver lui-même. Parce qu'en réalité, si on y pense, là, quand on a péché, c'est une offense à Dieu qu'on a faite. Il fallait que Dieu fasse de quoi pour que lui décide de nous pardonner. C'était pas quelque chose que moi, je peux pas pardonner vos péchés. Moi, c'est pas à moi que j'avais péché, c'est à Dieu. Il fallait que Dieu prépare de quoi pour que sa justice soit apaisée, puis que sa colère aussi soit apaisée, puis que là, qu'il puisse déverser pleinement son amour sur nous. Dans Marc, au chapitre 10, versets 26 et 27, les disciples, ils posaient la question, et qui peut être sauvé? Jésus leur a dit, cela est impossible aux hommes. Les hommes, c'était hors de question qu'un homme pouvait penser d'être sauvé par lui-même. C'est pour ça que, quand on pense à ça, on peut s'imaginer l'ensemble de religions qu'il y a sur la terre, que le monde se sont inventés, des moyens pour atteindre Dieu, puis se sont inventés des scénarios, puis des rituels pour arriver à se purifier. Ils n'ont pas cru ce que Dieu a dit, mais ils se sont établis eux-mêmes des moyens pour penser à atteindre de devenir juste devant Dieu, puis de pouvoir mériter une place dans l'éternité avec lui. Dieu, lui, regarde tout ça comme c'est perdu. Ceux qui se confient là-dedans, ils sont perdus. Il n'y a rien à faire. On l'a vu dans le passage de la semaine passée que tous étaient sous la colère de Dieu, puis il nous restait simplement d'attendre la condamnation éternelle. En Éphésiens 2:3, ça nous disait que nous tous, nous étions de leur nombre, en parlant des chrétiens, on était de leur nombre, de ceux qui sont perdus, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, puis on était par nature des enfants de colère comme les autres. C'était par nature, c'était naturel. On venait au monde pour être sous la colère de Dieu. Il n'y avait pas de moyen de s'en sortir par nous-mêmes. Il fallait que Dieu fasse de quoi? Il fallait que Dieu intervienne. Puis quand Jésus est venu pour intervenir, mais c'est Dieu qui est venu intervenir. Parce que nous, on était perdus. Par nature, on était des enfants de colère, de subir la colère de Dieu, pas juste pour la présente. La colère éternelle d'être séparé d'avec lui. Fait que les œuvres religieuses sont des efforts humains pour essayer de gagner la faveur de Dieu, mais Dieu réplique que ce n'est pas par les œuvres. Dans Éphésiens 2:9 qu'on veut étudier ce soir, il dit « Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. » C'est pas par des actions que tu gagnes ton ciel. C'est par la foi. Puis vu que tu as la foi, c'est là que Dieu te donne son cadeau. Puis pas la foi dans n'importe quoi, là. La foi dans son Fils qui est mort pour pardonner nos péchés. C'est de croire en Jésus, puis de croire en son sacrifice. Parce que des fois, on peut se sentir des culpabilités, on peut se sentir dans la condamnation, on peut se sentir éloigné, mais faut toujours venir avec des pas de foi, puis notre bouche qui doit confesser, je crois que Jésus est mort pour pardonner mes péchés, puis je me laisse pas envahir par les doutes, puis par les attaques de l'ennemi. Je décide de mettre ma foi pour le pardon de mes péchés. Je mets ma foi dans le sacrifice de Jésus. C'est Jésus qui est mort pour me pardonner. C'est un cadeau gratuit que Dieu me donne d'être pardonné. C'est par la foi que je le saisis. Puis la foi, c'est quelque chose. C'est une ferme assurance dans ce que Dieu a accompli à travers Jésus. On a cette assurance-là, on le sait, il est mort pour nous, puis on l'accepte comme qu'il devienne notre sauveur, puis notre Seigneur. On le prend, puis on le garde, puis on veut rester avec lui. Puis c'est pas par mes mérites, parce que moi j'étais un homme pourri, un homme pécheur, mais Jésus m'a fait sa grâce quand j'ai été à lui pour lui dire que je voulais qu'il me pardonne. Il n'y a personne qui va rentrer au ciel en se vantant que les mérites de la loi lui ont permis d'entrer, parce que il y en a qui pensaient qu'en pratiquant la loi de Moïse, ils pratiquent les 10 commandements qu'ils vont pouvoir rentrer. On peut pas rentrer. Puis on pourra pas dire, rendu l'autre bord, j'ai tout accompli la loi, puis là je suis rentré au ciel. Dans Romains 3, 27 et 28, ça nous dit où est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Ça veut dire que tout ce que tu aurais pu faire avant de venir à Jésus, ça compte pas aux yeux de Dieu. L'apôtre Paul, il disait qu'il avait regardé ça comme de la boue. C'est la foi en Jésus qui sauve. Fait que quand tu vas à Jésus pour être pardonné, t'es pardonné. Tes œuvres de ta loi ne comptent pas pour te justifier. Puis ça, faut bien qu'on le comprenne, parce que si on pense qu'on rentre au ciel par nos bonnes actions, on est perdu. Si on pense qu'on rentre au ciel parce qu'on a pratiqué la loi de Moïse, on est perdu. Ou si on pense qu'on rentre au ciel parce qu'on est une bonne personne, on est perdu. Il y a juste ceux qui vont reconnaître leurs incapacités d'être sauvés par eux-mêmes. Il y a juste ceux qui reconnaissent que c'est Jésus qui est le sauveur, puis qu'ils croient, puis mettent leur foi en lui pour leur salut. Il y a juste ceux que tu vas voir au ciel. Le salut, c'est un cadeau de Dieu C'est quelque chose que Dieu donne, mais saisi par la foi. Parce qu'il est offert à tout le monde. Mais il faut que j'aie la foi pour le prendre, puis le garder toute ma vie, que c'est Jésus qui me sauve. C'est saisi par la foi. Il faut garder la foi, parce que c'est cette foi-là en Jésus qui nous sauve. Parce qu'on a décidé de mettre notre foi en Jésus, le Père nous regarde, puis ça dit qu'il nous aime. À cause qu'on a mis notre foi en son Fils. Ceux qui rejettent Jésus, Dieu il est pas avec eux. Il dit, celui qui a le Fils a le Père. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas non plus le Père. Si tu prends le Fils, c'est là que le Père est avec toi, puis il va te sauver, puis il va te prendre dans sa main, puis il va te garder. Dans Éphésiens 2:8 qu'on est en train d'étudier ce soir, c'est le verset clé pour la soirée, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Puis ça vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Tout ce qu'il nous demande, c'est la foi. Lui a déjà tout accompli le plan parfait pour qu'on puisse être sauvé. C'est le sacrifice de son Fils. C'était pas n'importe qui, c'est Dieu lui-même qui est venu. Puis c'était pas pour n'importe quoi, c'était annoncé d'avance qu'il était pour venir puis prendre nos péchés sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. La Bible est claire. Nous obtenons le salut de notre âme par cadeau de notre foi en Jésus. Dans 1 Pierre 1:8 et 9, ça nous dit, lui, en parlant de Jésus, que vous aimez sans l'avoir vu. Amen. Y a-t-il du monde qui aime Jésus ici, à soir? Sans l'avoir vu, on l'aime. Il dit, en qui vous croyez sans le voir encore? On l'a pas vu, mais on y croit qu'il est venu. On a une ferme assurance qu'il est venu pour nous même. On le croit même si on l'a pas vu. Vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. On se réjouit, yahou, de ce qu'on est sauvé. C'est une joie qui est là, mais c'est pour le monde, c'est impensable, cette joie-là. Ils comprennent pas ça. Mais nous, on a tellement de foi en Jésus, on n'a pas besoin de le voir, on y croit, on le sait qu'il est venu, puis on a de la joie d'avoir obtenu ce qu'il nous a donné. Puis là, il dit l'autre verset, là, il est important, écoutez ça. « Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. » On va obtenir le salut de notre âme par le prix de notre foi. On a cette foi-là en Jésus. On l'aime sans l'avoir vu. On y croit. On l'aime sans l'avoir vu, puis on y croit sans le voir encore. Puis on se réjouit de tout cela. Mais il dit ça, c'est de la foi qui va faire que tu vas être sauvé. Tu vas obtenir le salut de ton âme pour le prix de ta foi. C'est comme si Dieu, il te paye. Il te paye d'avoir mis ta foi en Jésus. Il te donne le cadeau gratuit de la vie éternelle à cause de décider de mettre ta foi en Jésus. C'est super. C'est le seul critère qui plaît à Dieu. En partant, là, c'est le seul critère qui plaît à Dieu. Sans la foi en son Fils Yeshua, nous ne recevrons rien de Dieu. Tout est basé là. En partant, c'est notre départ, décider de mettre notre confiance en Jésus, puis de la garder toute notre vie. Dans Hébreux 11:6, ça dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Fait que, avoir décidé de mettre notre foi en Jésus pour notre salut, là, c'est la plus belle affaire que tu pouvais pas faire aux yeux de Dieu. C'est la seule plus belle affaire que Dieu aime le plus de voir en chacun de nous. De voir qu'on y croit, puis qu'on l'aime, puis qu'on a décidé que ça devienne notre moyen de salut. Ce qui fait la différence avec le reste du monde, qui cherche encore par leur religion, par leurs œuvres, d'essayer d'atteindre quelque chose, ou en copier de ceux qui veulent rien savoir de rien, puis qui vivent que pour la vie présente. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Parce qu'on cherche Dieu, on le cherche à travers son Fils Jésus, on a la foi, mais Dieu va nous rémunérer. Ça veut dire quoi, rémunérer? C'est donner un salaire. Il va nous payer. Ben, on n'est pas payé de suite. Oui, on a déjà des petites affaires de bénédiction, mais même qu'on arrive l'autre bord, on va être fier de toutes ces bénédictions qu'il va nous donner, parce qu'on a décidé de mettre notre foi en lui. On y croit en Dieu, puis on croit en sa révélation, en son fils Jésus. Mais, il y a un petit mais, puis ça peut être considéré comme un gros mais. Le salut par la foi n'exclut pas l'idée que nous devons faire des œuvres. C'est pas par les œuvres qu'on est sauvé, mais ça veut pas dire qu'il y a pas d'œuvres, là. Ça veut pas dire que la foi exclut les œuvres. C'est Dieu qui a établi les règles de ce qu'on va voir, là. C'est parce qu'il faut bien, ça fait partie de sa parole, ça, là. Dans Éphésiens 2:10, qu'on est en train d'étudier, Éphésiens, ça dit, car nous sommes son ouvrage, on est son travail à Dieu. Dieu a entrepris de nous modifier, de nous transformer, puis on est son ouvrage, on était créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin qu'on les pratique. Il dit, c'est pas par les œuvres qu'on est sauvés, mais on était sauvés pour de bonnes œuvres. Ça n'exclut pas qu'il y a des œuvres. Dieu s'attend, parce qu'il dit qu'on est son ouvrage. Il a commencé une œuvre de changement en nous pour nous changer, nous transformer, pour qu'on commence à produire des choses. Mais pas n'importe quelle chose qu'on produit. On produit des choses que lui a déjà préparées d'avance. Le tapis est déjà déroulé avant qu'on marche dessus. On rentre dans le plan, puis déjà, c'est tout prêt. On commence déjà à pratiquer des affaires, parce que lui, on est son ouvrage, puis il agit en nous, puis il nous utilise là-dedans à faire des œuvres. Les œuvres que lui a préparées d'avance, puis il les a préparées afin qu'on les pratique. Un chrétien peut pas tomber assis sur sa chaise et rien faire dans l'œuvre de Dieu. C'est pas normal. C'est parce que la personne n'a pas compris le plan de Dieu, c'est elle-même. On est tous appelés à rentrer dans le travail que Dieu a préparé d'avance pour chacun de nous. On a tous des travaux différents. Ça se peut qu'on travaille ensemble dans les mêmes affaires, mais ça se peut qu'on ait des appels personnalisés là, pour nos dons, nos capacités. On va faire des choses de plus, peut-être. Comme je le sais que c'est pas tout le monde peut travailler à la radio. Dieu m'a utilisé là-dedans. Il m'a donné la capacité, puis c'est un travail plus précisément pour moi. Mais il y en a d'autres qui peuvent le faire, que Dieu va appeler, mais il y a d'autres choses qu'on est capable de faire en groupe, comme prier, on prie en groupe, aller évangéliser, on peut évangéliser en groupe, rendre des services ou des choses, c'est toutes des affaires, il y a des affaires individuelles, mais il y a des affaires en groupe, c'est toutes des affaires que Dieu a préparées. Rendre un culte à Dieu, c'est en groupe. Il y a des actions en groupe, il y a des actions individuelles. Mais c'est Dieu qui a préparé ça. Puis il veut vraiment qu'on réalise qu'on n'est pas sauvé par nos œuvres, ni par nos performances, mais on est sauvé par la foi, mais on est sauvé aussi pour accomplir des œuvres. Parce que Jacques nous le dit, c'est le dernier verset qu'on va voir ce soir. Jacques nous le dit, lui. Il a expliqué dans Jacques chapitre 2, là, à partir du verset 20, il a expliqué que ça sert à rien de dire qu'on a la foi si on n'a pas les œuvres qui vont avec. Dans Jacques 2:20, ça dit, « Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? » Ça sert à rien de dire qu'on a la foi si on n'a pas les œuvres de la foi. Parce qu'il y en a qui ont juste la foi, mais ils veulent pas rien mettre en pratique. Tu t'enseignes, ils entendent les prédicateurs prêcher, puis ils veulent rien savoir, ça leur rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Ils veulent rien mettre en pratique. Mais c'est inutile une foi comme ça. Dieu va-tu dire qu'il est glorifié quand il voit qu'on est pareil comme avant? Non. Ça dit dans en continuant à lire Jacques, là, il dit Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres de la foi, mais par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Fait que pour que ta foi soit une foi parfaite, faut qu'il y ait des œuvres de la foi. C'est les œuvres que Dieu va faire avec toi à travers ta vie, parce qu'il est en train de te préparer, on est son ouvrage. Il nous a créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que lui a préparées. Fait qu'il nous prépare, puis il prépare les œuvres, puis il nous fait rentrer dedans. Mais c'est comme Abraham, quand il est venu pour sacrifier, Dieu lui a dit, va sacrifier ton fils. Abraham est parti avec son fils, puis il est allé pour le sacrifier. Puis il avait déjà alentour de 10 ans son enfant. C'était pas un bébé naissant. Il avait près de 10 ans. Il s'en allait, puis il avait reçu la promesse qu'il était pour avoir une descendance aussi nombreuse que le sable de la mer. Puis ce fils-là, c'était son fils que lui aimait, puis qui avait la promesse sa descendance à travers de Isaac. Puis il est allé pour l'offrir en sacrifice. Il a fait des pas de foi. Puis quand il est venu pour le faire, Dieu lui a dit, arrête, c'est correct, j'ai vu que tu étais prêt à le faire. Il a fait des œuvres. Mais nous, on a toutes sortes d'œuvres autrement, d'autres œuvres que Dieu a préparées. Puis chacun ne nous demandera pas d'aller crucifier notre fils. Il ne faut pas penser que Dieu nous demande d'assassiner quelqu'un autour de nous. Là. Si ça nous vient dans la tête, il faut chasser ça dans le nom de Jésus. Mais je veux continuer à partir du verset 23. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, puis cela lui fut imputé à justice, puis il fut appelé ami de Dieu. Fait que quand tu crois en Dieu, puis tu commences à obéir à Dieu, mais tu vas être décrété que t'es rendu juste, puis Dieu va t'aimer, tu vas être son ami. Fait que l'obéissance est importante, pas juste savoir qu'il y a un Dieu, parce qu'il y en a qui savent qu'il y a un Dieu, mais qu'ils posent pas aux actes. T'es voué pas, ils sont pas là. Là, Jacques continue. « Voyez-vous que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement? » Ça veut dire qu'il est important que les chrétiens réalisent que ces œuvres-là qu'on fait, peu importe les œuvres qu'on fait, quand on les fait, quand on sent que c'est les œuvres que Dieu nous appelle à faire, mais on rentre dans les œuvres de Dieu, puis c'est important qu'ils soient faites, c'est de même qu'on démontre notre foi. Dieu veut pas juste des « oui », il veut pas juste un oui, c'est oui, puis tu passes aux actes. Il nous donne un autre exemple d'une autre personne qui s'appelle Rahab, la prostituée. Ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Puis ça, c'est ce qui est arrivé. Elle a protégé sa famille en faisant cela. Elle a été sauvée, elle et sa famille, parce que le fait qu'elle a aidé le peuple juif à pouvoir passer aux actes, parce qu'il fallait que le peuple juif détruise sa ville où elle habitait. Mais elle a cru que Dieu existait, puis elle croyait que le peuple juif était pour avoir la victoire. Elle a protégé les espions juifs qui étaient venus, puis elle les a aidés à s'en sortir pour qu'ils puissent sortir de la ville sans se faire pogner, puis elle a été épargnée. Dieu l'a béni, puis elle a été épargnée, puis sûrement qu'elle a été déclarée qu'elle était justifiée devant Dieu parce qu'elle a fait des œuvres que Dieu lui a demandées. Puis Jacques, il donne comme conclusion, « Comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. » Un corps, c'est quand tu perds ton âme, ton âme sort du corps, ton corps, il est mort. Mais il dit, comme le corps qui est sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres, elle est morte. Fait que Dieu, lui, voit ça une fois morte. Quand c'est une fois morte, ça n'a aucun effet, aucune bénédiction. Dieu prend pas plaisir en quelqu'un qui a pas d'œuvre. D'œuvre de la foi. Voyez-vous? On va prier. Seigneur, je te remercie pour ta parole et qui est vraie. Seigneur, Donne-nous de rentrer dans les œuvres que tu as préparées d'avance pour chacun de nous, que chacune de tes brebis puisse connaître le chemin, puis connaître dans quoi tu nous appelles, qu'on puisse voir dans ta parole tout ce qui est vrai, mais aussi de le mettre en pratique. Qu'on se borne pas à essayer de pas mettre en pratique. Qu'on devienne ces gens-là qui montrent l'exemple de ta parole, de marcher dans l'amour puis dans le service pour notre Dieu. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen.